deuxième était le slow. Transistor.
Culture, expo, cinéma, théâtre, livre, littérature, musique, peinture, expo, culture.
Transversal.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 17e numéro de Transversal, un numéro qui sera consacré aujourd'hui au cinéma. Estelle et Paul l'ont expliqué la semaine dernière. Chaque semaine, vous retrouverez un numéro de Transversal consacré à un art en particulier et une table ronde mensuelle où se retrouveront divers intervenants pour un débat qui promet ce mois-ci d'être musclé, je n'en dis pas plus. Qui dit rentrée pour Transversal dit nouvelle voix au micro, ma camarade Pauline Brunschwick, bonjour Pauline, et moi-même Cyril Jeannagro qui nous chargeront donc de l'émission cinématographique. Nous vous proposons environ 25 minutes en notre compagnie pour aborder, selon une formule très simple, l'actualité internationale, nationale et même lyonnaise du monde du cinéma et un bref compte-rendu d'un film notable du mois, suivi de deux interventions liées soit à l'histoire, la sociologie ou la critique du cinéma, en 10 minutes chacune, et enfin, les sorties DVD et films alléchants sortant le mois suivant, en fin d'émission. Le tout, si possible, sans prise de tête, et nous y veillerons.
Sans plus attendre, débutons ce 17e numéro de Transversal, où vous entendrez parler de critiques cinématographiques, de la regrettée Paulette Dubos, des erreurs du masque et la plume, d'Hitchcock, de la Mostra 2011, sans oublier les westerns oubliés venus d'ailleurs que Monument de Vallée.
Le mois de septembre fut pour nous tous celui de la rentrée. Or, qui dit rentrée dit autre chose à faire que de penser et encore moins aller au cinéma. Lâchez les cahiers du cinéma et positif, Transversal vous résume l'essentiel de l'actualité du monde du cinéma en 3 minutes seulement.
Mostra de Venise d'abord. Fin août, début septembre, s'est tenue la 68e édition du Festival de Venise, présidée par Darren Aronofsky, le réalisateur de Requiem for a Dream et Black Swan, entre autres. Une belle édition selon l'avis des festivaliers, puisqu'étaient présents en vrac des espoirs du 7e art tels que Steve McQueen, Hunger, Emanuele Crialese, réalisateur de Respiro, Andrea Arnold, Red Road et George Clooney, réalisateur, ainsi que des vétérans William Friedkin, l'exorciste, Abel Ferrara et même, osons le mot, des légendes telles que Cronenberg et Polanski remis de ses démêlés judiciaires. Sokurov est enfin récompensé par un grand festival pour sa relecture du mythe de Faust à sortir prochainement.
Oui, sale temps pour les aventures de la petite Marjane dans le Téhéran de la Révolution. Le film Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Parono, sorti il y a environ 2 ans, a provoqué un tollé après sa diffusion le 7 octobre par Nesma Télé, une chaîne de télévision tunisienne. Le film comporte une représentation d'Allah en vieil homme barbu qui a entraîné menaces, protestations écrites et échauffourées dans les rues de Tunis. Des échauffourées qui ont conduit le directeur de la chaîne à s'excuser publiquement. Voilà qui en dit long sur la Tunisie post-Ben Ali, comme l'affirmait en son temps Jean-Pierre Raffarin, la route est droite mais la pente est forte.
Paulette Dubost enfin, la France perd la doyenne de ses actrices. Paulette Dubost et son célèbre regard espiègle se sont éteints le 21 septembre, fauchés dans leur prime jeunesse à l'âge de 100 ans. De Nana de Renoir en 1926 aux yeux clairs de Jérôme Bonnel en 2005, soit une carrière de 80 ans et 160 films, elle traversa les décennies allant de second rôle en second rôle, chez Renoir, Tourneur, Ophuls, Truffaut et dans les derniers films de Louis Malle, Le Dernier Métro, Hôtel du Nord et surtout Lisette de La Règle du Jeu en 1939 de Renoir. Adieu Paulette.
Le film du mois, très brièvement, nous avons sélectionné le film de Bertrand Bonello, L'Apollonide, souvenir de la maison close. Il s'agit de la première œuvre de Bonello diffusée à un public assez large, sans doute en raison de sa sélection cannoise, et sans doute son œuvre la plus aboutie également au regard de sa filmographie antérieure qui se complaisait dans un certain intellectualisme. On parle ici de quelqu'un qui a quand même adapté De la guerre de Karl von Clausewitz à l'écran. Une construction narrative très lâche et des anachronismes recherchés témoignent de l'empreinte de ce cinéaste fréquemment loué pour son inventivité formelle. Un cinéaste cependant en train de s'assagir et qui se tourne désormais vers un cinéma plus grand public. Sans transition aucune, nous passons à l'intervention de Pauline qui nous propose aujourd'hui une revue de presse critique plutôt insolite.
En effet, il est toujours amusant de constater, pour les férus de revues critiques cinématographiques, qu'elles soient écrites ou radiophoniques, que les grands génies du cinéma ont mis du temps à apparaître comme tels aux yeux de ceux qui les jugent. Au Masque et la Plume, par exemple, l'excellente émission de Jérôme Garcin sur France Inter, il semble parfois que les critiques aient la mémoire courte quand ils assurent par exemple très récemment avoir été toujours des fans absolus de Lars von Trier, alors que pour les bons collectionneurs de podcasts, cela apparaît plus discutable. Ainsi, afin de rendre justice aux réalisateurs et de s'amuser des erreurs de jugement de nos amis les critiques, j'ai décidé de faire une chronique qui recense des extraits de critiques qui vont à contresens de l'histoire du cinéma. Le Masque et la Plume est une mine d'or à ce propos, puisqu'il donne lieu à des débats fort virulents qui prêtent aux bons mots. En 1966, par exemple, pour commencer, c'est la sortie du rideau déchiré de Hitchcock et il se fait malmener par les quatre intervenants de ce soir-là, les célèbres Charansol et Bory, mais aussi Benayoun et Mardor. On retiendra entre autres l'intervention d'un spectateur qui démarre le débat. Une démystification s'impose, je cite, « ce vieux cabotin sénile et mûr pour la retraite ». Les critiques l'approuvent et vont même plus loin, comme Charansol qui affirme que c'est vraiment nul et déplaisant et ajoute que la scène de l'assassinat, restée dans les annales comme centrale dans la cinématographie de Hitchcock, est assommante. C'est à Jean-Louis Bory que revient le dernier mot dans ce débat, et ce sera le meilleur. Je m'étonne que vous vous excitiez sur un film qui, dans la production de Hitchcock, est non seulement mineur, mais minable. On est en 1966, à quelques semaines de la parution du livre d'entretien « Le cinéma selon Hitchcock » de Truffaut, qui va révolutionner le regard que la critique porte sur le cinéaste, qui, d'un réalisateur à succès, devient un véritable artiste. Le 1er janvier 1967, lorsqu'ils reçoivent Truffaut, les critiques du Masque opèrent donc un tournant à 180 degrés. Hitchcock n'est pas le seul à avoir souffert de cette injustice, puisque Tati aussi l'a soufferte avec Playtime, film qui est considéré aujourd'hui comme un de ses chefs-d'œuvre, ovationné lors de sa diffusion dans sa version restaurée au Festival de Cannes en 2002. En 1968, à la sortie du film, le son de cloche est tout à fait différent et le réalisateur sort d'ailleurs ruiné de cette aventure puisque le film est un four public. Les critiques du Masque ne l'ont pas aidé dans cette perspective puisqu'il passe à côté des ambitions de Tati complètement. Il trouve le film réactionnaire. Michel Mort pense, je cite, que la philosophie latente de ce film antimoderne est infantile et déplore de plus que chacun des gags soit répété 10 fois à satiété. Tati est trop lent. Une jeune actrice du film qui est présente dans le public prend alors la parole. Je suis très déçue. Vous n'avez pas compris Tati. Il ne critique absolument pas le monde moderne. Cette réflexion de la jeune actrice ne sera entendue que 35 ans plus tard. Tailler un costard à Tati ou Hitchcock semble aujourd'hui chose impossible, en tant qu'ils sont devenus des monuments du cinéma. On peut prendre les choses par un autre bout et se pencher par exemple sur le cas de Jacques Demy, avec qui les années ont été très clémentes, puisque la ringardise de ses films, et c'est un petit peu personnel, a été promue en art ces 20 dernières années. Dans le numéro d'Images et Sons de 1971, on redécouvre avec la critique de Abraham Segal que Demy n'a pas toujours été considéré comme un auteur. C'est l'adaptation du conte de Perrault, Podane, qui passe sur la sellette dans ce numéro d'Images et Sons. Monsieur Segal n'est pas tendre avec ce doux rêveur. Je cite « Si fidélité égale conventions et clichés, Demi est le plus fidèle des adaptateurs. Dans Peau d'âne, on ne nous propose qu'un gâteau de pacotille sur lequel des personnages d'opérette, qui sentent un peu fort le clinquant, font des pirouettes en poussant la chansonnette à l'eau de rose. Segal compare enfin Cocteau, adaptateur d'Orphée, et Demi, qui, je cite, ne fait qu'illustrer un vieux conte charmant avec de belles couleurs, en prenant grossièrement les métaphores poétiques au pied de la lettre, les lèvres d'une rose, la couleur des robes. On n'appelle pas ça du fantastique, mais du cliché. L'humour lourd d'un Demi se révèle avec la très spirituelle introduction d'objets modernes, comme l'hélicoptère et le téléphone, des idées dignes d'un élève studieux. Je ne m'étendrai pas sur la guimauve musicale de Michel Legrand, dont le seul interprète supportable est le perroquet. Voilà comment on peut remettre à sa place des films devenus cultes. Pour finir cette chronique, puisque nous sommes dans un numéro qui fait la part belle au western, et alors qu'aujourd'hui on n'ose plus exercer son esprit critique contre les films de Sergio Leone, dont la filmographie est un genre à part entière, il serait bon de se replonger dans les réactions mesurées de l'époque. Dans Images et sons, encore une fois, celui de juin 66, l'accueil que réserve René Tabès à Pour une poignée de dollars est fort tiède. Je vous la lit dans son intégralité, car elle n'est pas longue. Le plus achevé, le plus ambitieux et le plus ordurier des westerns européens. Odieux, malsain, sadique, le tout absolument gratuitement. De plus, il s'agit d'un plagiat de Kurosawa Yojimbo, ce qui prouve l'honnêteté de l'entreprise à fuir. Voilà pour aujourd'hui. À méditer, l'histoire des génies et des pseudo-chefs-d'œuvre, on en reparlera sans doute dans un prochain numéro.
Parlons désormais de western, comme le disait Pauline, mais de western non américain. Clint Eastwood déclarait qu'à ses yeux, je cite, « il n'y a pas d'art purement américain, exception faite du jazz et du western ». Et Dieu sait si Clint Eastwood s'y connaît en western. Le western est en effet né, comme chacun sait, des mythes engendrés par la conquête de l'Ouest américain et a été porté à l'écran, les mythes ont été portés à l'écran dès les balbutiements du cinéma pour le public de la côte Est, friand de scènes rurales et de petits courts-métrages figurant des bagarres de saloon, des rodéos ou d'inévitables pugilats opposant colons blancs et amérindiens. Ainsi, on peut avancer sans risquer de se tromper que le cinéma américain est devenu un divertissement de masse avec les premiers westerns dès 1897-1898 et l'un des premiers films comportant une narration, à savoir L'attaque du Grand Rapide d'Edwin Porter en 1903. Le western est le genre majeur prenant source à la genèse du cinéma américain et c'est le genre qui incarne au mieux les valeurs de l'Amérique puritaine d'alors. Pour vous convaincre encore davantage que derrière le western, on voit flotter au vent la bannière rouge et bleue aux 50 étoiles, rappelez-vous qu'Eddie Mitchell, dans sa défunte émission, l'émission que nous pleurons tous, La Dernière Séance, avait œuvré pour la diffusion des westerns et fut pour cela taxé d'impérialisme. J'en vois le dernier argument, l'argument d'autorité. Truffaut a un jour déclaré « Elle y tient tout entière, de l'Atlantique à la Sierra Nevada, le western, c'est l'Amérique ». De la fin du 19e siècle aux années 60, hormis quelques tentatives isolées et désespérées, le western reste donc l'apanage des États-Unis d'Amérique, en même temps qu'il en devient l'un des emblèmes. L'Europe découvre les films de John Ford, Howard Hawks et Raoul Walsh, notamment les principaux films, les principaux westerns américains, en 1944 uniquement, ce qui explique qu'il ait fallu attendre le milieu des années 60 pour voir émerger des cinéastes ayant grandi avec les westerns américains, est donc susceptible de se réapproprier les nombreux mythes véhiculés par le western, à savoir le conflit entre la loi et la sauvagerie, la figure du cow-boy solitaire, etc. Ce sont les Italiens, derrière les trois Sergio, Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima, qui furent les premiers dans le monde à assumer l'héritage du western américain et en proposer une relecture où le contexte historique est gommé, où la représentation de l'Ouest frise la parodie et où la violence est exacerbée dans des duels stylisés à l'extrême. Ces films, populaires jusqu'en 1980, ont connu un rapide déclin avant d'être remis à la mode par Quentin Tarantino, désormais devenu l'arbitre des films cultes ou des films non cultes. Tarantino en a fait ses principales références, dans Kill Bill notamment. L'objet de mon propos n'est toutefois pas ses premiers westerns européens, ses premiers westerns italiens, aujourd'hui édités en DVD et parfois même objet de thèse en études cinématographiques. Je pense plutôt à ces westerns que les moins de 50 ans et qui n'ont pas vécu en Roumanie ne peuvent pas connaître. En effet, des quatre coins de la planète ont émergé des films qui du western n'ont gardé que la substantifique moelle, c'est-à-dire les poncifs et la violence inhérents à la représentation de l'ouest américain. La légende veut que Staline lui-même ait été un fin amateur de western. Pas étonnant que l'URSS cherche à retourner la mécanique de propagande des valeurs américaines qu'était le western, en proposant au public soviétique des films où, par opposition aux films américains, les Indiens étaient loués pour leur esprit révolutionnaire et leur velléité anti-impérialiste. Ces westerns rouges, comme on les appelle, voire même un titre encore plus éloquent, les esterns, faisaient interpréter les rôles des Indiens et des Mexicains par des gitans ou des Turcs qui devinrent parfois des stars locales. Certains prennent place dans l'Ouest américain, tel qu'un film qu'en France peu de gens ont vu, qui est tout simplement introuvable, nommé « Les fils du grand ours » de Joseph Mack, réalisé en 66 en RDA, qui tente de faire revivre le frisson de la conquête des pionniers en y insufflant une fougue proprement révolutionnaire. D'autres ne s'embarrassent même pas de ce contexte qui nous semblerait pourtant nécessaire et tournent des westerns en pleine taïga, tels que Daoria de Konstantin Sedik en 71, qui se déroule en pleine Sibérie. Le western rouge est l'unique exemple de western européen engagé. Ceux qui suivent et proviennent des quatre coins du globe ne seront que des divertissements bon marché auxquels l'histoire du cinéma ne laisse qu'une mince place. À l'image du western italien dit « spaghetti », les westerns du monde entier prennent le nom d'une spécialité culinaire de leur pays d'origine. La RDA, infatigable vivier de nanars, a offert au monde reconnaissant la série des Vintou, interprétée par le français Pierre Brice, figure emblématique du western dit « choucroute ». Ramesh Sippy réalise en 71 « Sholai », le premier d'une longue série de westerns indiens dit « western curry », où Monument Valley est remplacé par les plaines du Rajasthan et où les chevaux font des glissades pour passer sous des camions. Oui, preuve à l'appui. Plus obscures encore, les variantes nationales pré- et post-URSS des westerns rouges. Le western Mamaliga roumain, la Mamaliga est une sorte de bouillie de lentilles et de fèves, et le western goulash hongrois sont les plus réputés de ces sous-genres qui n'attendent plus qu'une sélection à Cannes pour montrer à la face du monde de quoi ils sont capables. Les cinémas naissants d'Asie centrale, notamment l'Ouzbékistan, se lancent également dans la production de westerns islamiques, pour l'instant introuvables, et le Nigeria, qui est actuellement la deuxième industrie cinématographique au monde, tourne à la chaîne des westerns africains où des cow-boys solitaires règlent leur compte dans la jungle à coups de kalachnikov. À l'heure où Hollywood regarde le western comme un vestige de l'âge d'or des grands studios qui ont fait sa gloire, des cinéastes ont définitivement fait exploser les bornes du genre en le mutilant de toutes les manières possibles, condamnant ainsi le réalisateur de western d'aujourd'hui à ne produire qu'une éternelle parodie.
Place désormais à l'actualité des sorties DVD et des films à sortir prochainement en salle. On commence par deux rééditions. Celle de cinq films de la période plutôt creuse de Woody Allen, entre 1995 et 2004, réédité à l'occasion de la sortie de Minuit à Paris, film que certains auront jugé assez médiocre, qui ne justifie pas son achat. Les cinq autres films sont Escroc mais pas trop, Coup de feu sur Broadway, Maudite Aphrodite, Pas inoubliable non plus, ainsi que Les attachants Celebrity et Tout le monde dit I love you. Idem pour la série des Scream, qui ressort dans un coffret à l'occasion de la sortie du quatrième volet. Ceci permettra peut-être de saisir la portée trop souvent sous-estimée de ces films, qui proposent une relecture parodique des slashers américains des années 70, hautement référencés et ne doivent pas être réduits au simple statut de divertissement grand public. Enfin, la sortie du Rôdeur, sorti en 1951, l'un des premiers films de Joseph Losey, qui met en scène Van Heflin dans un film policier très classique, et celle de Tree of Life, Palme d'Or 2011, controversée. Pour ceux qui trouveront enfin le courage de prendre le trolleybus à Jean Massé jusqu'à l'UGC Cinécité, de belles sorties s'annoncent le mois prochain. Police de Mai Wen, Tintin de Steven Spielberg, Contagion de Steven Soderbergh et Hors Satan de Bruno Dumont. Les plus chanceux qui auront l'occasion de passer à Paris le mois prochain pourront bénéficier de la ressortie en salle de Sarah Band de Bergman, Moby Dick de John Huston ou encore de Chronique d'un été, un film ethnographique sur les Parisiens réalisé en 1961 par Jean Rouch et Edgar Morin. Espérons que le Comédia se fasse l'écho, même partiel, de ces reprises alléchantes.
Nous arrivons au terme, déjà, le temps passe vite, de ce numéro 17 de Transversar consacré au cinéma. Merci de nous avoir écoutés. Toutes les suggestions dans l'école ou par mail sont les bienvenues. On se retrouvera dans un mois pour un numéro. D'ici là, bon film et à bientôt sur Transistor.